10 minutes juste après le journal. À Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal. Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous. Dans l'actualité, la liberté retrouvée de Julian Assange. Le célèbre lanceur d'alerte est en route vers son pays, l'Australie, après avoir comparu devant la justice américaine. C'est la fin d'une saga judiciaire de près de 14 ans. Incertitude au Kenya au lendemain d'une journée de chaos qui a fait au moins 13 morts. Le projet de budget qui a déclenché la colère des manifestants doit être voté avant la fin de la semaine. Dans ce journal aussi, les législatives en France à 4 jours du premier tour. Une nouvelle étape dans la restructuration de la dette du Ghana. Le président serbe et le premier ministre kosovar tentent à Bruxelles de reprendre le dialogue. Et en Italie, des manifestations de soutien aux migrants après la mort accidentelle d'un ouvrier indien. Julian Assange en route vers Canberra. Le fondateur de Wikileaks a donc plaidé coupable d'espionnage cette nuit devant la justice américaine. Au terme de l'accord signé avec l'administration Biden, il est libre de ses mouvements et il est attendu en fin de journée en Australie, son pays natal. Cette issue intervient après une douzaine d'années d'enfermement, de quoi faire réfléchir quelque part en Russie un certain Edward Snowden. L'ancien sous-traitant du renseignement américain est toujours retenu au pays de Vladimir Poutine. Il est poursuivi par les États-Unis pour avoir transmis à la presse internationale des milliers de documents top secrets sur la surveillance de masse. Récit de Vincent Souriau.
Robert Thibault a été l'avocat d'Edward Snowden à partir de 2013. Obtenir un deal à la Julian Assange, Snowden en rêverait.
C'est une possibilité que M. Snowden explore depuis des années. Plaider coupable en échange d'une peine très courte. Mais légalement, ça n'a pas été possible parce que les États-Unis ne sont pas disposés à lui offrir cette procédure. Ils veulent un procès.
Si malgré tout il décidait de revenir sur le sol américain et de se présenter devant la justice, il ne serait pas en mesure de plaider sa cause devant un jury parce qu'il fait face à des accusations d'espionnage.
Monsieur Snowden ne pourrait pas expliquer ses motivations ou son système de pensée parce qu'en vertu des textes relatifs à l'espionnage, il a l'interdiction de le faire. Est-ce qu'il pourrait faire valoir le premier amendement et la liberté d'expression? Non, pas dans ce cadre juridique. Le procureur n'aurait qu'à prouver qu'il a subtilisé des données, ce serait suffisant pour le condamner et l'envoyer en prison. Et ça peut aller jusqu'à 30 ans.
Un jour, conclut Robert Thibault, un gouvernement américain reconnaîtra peut-être qu'Edward Snowden a agi dans l'intérêt commun, mettra fin à cette saga et lui proposera un accord parce qu'il est toujours américain et que les États-Unis restent son pays.
J-4 en France. Dans 4 jours se tiendra le premier tour des législatives anticipées. Hier soir avait lieu un premier débat télévisé avec la participation des représentants des principaux camps. Gabriel Attal pour la majorité présidentielle, Manuel Bompard pour l'Alliance gauche écologiste et Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Quant à Emmanuel Macron et à Jean-Luc Mélenchon, l'envie de participer à cette campagne les démange, mais dans leur camp respectif, ils ne sont pas les bienvenus. Explication Valérie Gasse.
Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ont un point en commun. Ils apparaissent comme des repoussoirs dans la campagne des législatives. Emmanuel Macron, qui a prononcé la dissolution surprise de l'Assemblée nationale, a provoqué la colère des Français, mais aussi des cadres et des députés de la majorité qui ne lui demandent qu'une chose, de se taire, car sur le terrain, c'est lui, le chef de l'État, qui concentre les critiques. Jean-Luc Mélenchon n'est pas mieux loti. Il fait l'unanimité contre lui parmi ses alliés du nouveau Front populaire, socialiste, écologiste, qui ne veulent surtout pas entendre parler de lui pour devenir Premier ministre. Tous les deux étaient maîtres du jeu en 2022 après la présidentielle. Aujourd'hui, ils sont devenus des pollueurs de la campagne. Obligés pour Emmanuel Macron de laisser Gabriel Attal mener la bataille des législatives, pour Jean-Luc Mélenchon de clamer pour rassurer qu'il n'est candidat à rien, mais tout en précisant pour le premier qu'il ne démissionnera pas après le 7 juillet, pour le second qu'il ne s'élimine pas de la course à Matignon, histoire de rappeler qu'il n'ont ni l'un ni l'autre l'intention de se laisser effacer trop longtemps de la photo.
Après une journée de chaos et de violences meurtrières, le Kenya se retrouve plongé dans l'incertitude, alors que le projet de budget 2024-2025, au cœur de la contestation qui secoue le pays, ce projet de budget doit être voté avant la fin de la semaine. Hier, et de sources médicales, au moins 13 personnes ont été tuées en marge des manifestations antigouvernementales à Nairobi. Au Ghana, nouvelle étape dans la restructuration de la dette extérieure du pays. Un accord portant sur 13 milliards de dollars vient d'être conclu entre le gouvernement et ses créanciers privés. Vrai soulagement pour ce pays en défaut de paiement depuis 2022. Explication de notre correspondant Victor Cariou.
Une dette allégée de près de 5 milliards de dollars. Voici l'annonce formulée par le Ghana et ses créanciers privés. Une réduction de plus de 30% de ce qui était originellement dû par le pays, à laquelle il faut ajouter un allègement de trésorerie à hauteur de 4,4 milliards de dollars, rendu possible dans le cadre d'un programme de prêt du Fonds monétaire international. Voici donc le contenu de cet accord après des mois de négociations et un échec de signature en avril. Cette bonne nouvelle intervient seulement une semaine après un autre accord de principe entre le Ghana et ses créanciers officiels. Cette fois-ci, le pays d'Afrique de l'Ouest était notamment entendu avec la Chine et la France pour restructurer une autre partie de sa dette extérieure d'un montant de 5,4 milliards de dollars. Deux étapes majeures qui ouvrent un peu plus la voie au prochain et troisième versement de l'aide du FMI vers le Ghana, 360 millions de dollars sur un programme de 3 milliards. Un versement qui devrait être acté ce vendredi 28 juin, date à laquelle le conseil exécutif du FMI va se réunir pour approuver ce nouvel accord. Victor Cariou, Accra.
Le surendettement en Afrique, c'est le thème aujourd'hui de la chronique de Dominique Bayard. Aujourd'hui, l'écho à retrouver sur notre site internet ou bien sur notre application Pure Radio.
Radio France Internationale.
Volodymyr Zelensky annonce qu'il s'est rendu à Pokrovsk, ville proche d'une zone particulièrement difficile du front dans la région orientale de Donetsk. C'est là qu'il a rencontré ses soldats, précise le président ukrainien sur les réseaux sociaux. Il ne s'était plus revu depuis 9 mois. Le président serbe Aleksandar Vučić et le premier ministre kosovar Albin Kurti se retrouvent ce mercredi à Bruxelles. Les deux hommes doivent tenter de reprendre les négociations dites de normalisation entre la Serbie et le Kosovo. Les dernières rencontres se sont soldées par des échecs spectaculaires et depuis, la situation sur le terrain s'est beaucoup détériorée pour la population serbe du Kosovo. Correspondance de Laurent Rouy.
La dernière réunion en date, le 14 septembre 2023, n'avait duré que quelques minutes et n'avait acté que le désaccord total entre les deux capitales. 10 jours plus tard, un mystérieux groupe paramilitaire serbe attaquait un village du nord Kosovo, provoquant la mort d'un policier. Enfin, en début d'année, le gouvernement du Kosovo décidait d'interdire aux Serbes l'utilisation de leur monnaie, créant une pénurie sans précédent au nord Kosovo, où les journaux, les biens de consommation et les livres scolaires serbes étaient déjà interdits. Dans ce contexte délétère, la Serbie se déclare prête à faire des compromis, mais en attend aussi de la part de Pristina, tandis que le premier ministre kosovar affirme se rendre sur place pour sonder les idées des participants. Le Kosovo refuse obstinément de mettre en place une importante association des municipalités serbes et subit pour cette raison des sanctions provisoires de la part des Européens. Pour Pristina, la reconnaissance de son indépendance par la Serbie doit être un précédent à toute avancée. Une percée dans ses pourparlers serait une surprise. Laurent Rouy, Belgrade. RFI.
Direction maintenant l'Italie, où avait lieu hier une manifestation dans le Latium, la région de Rome, en présence de centaines de membres de la communauté indienne. Un Indien de 31 ans, Satnam Singh, a succombé à ses blessures après avoir eu le bras arraché par une machine agricole. Pourtant, son patron aurait pu le secourir. Depuis, les manifestations se succèdent en Italie pour demander au gouvernement d'agir contre l'exploitation des immigrés. RFI Rome, Anne Lenir.
Des centaines de familles, avec leurs enfants brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire le nom de Satnam Singh, ont défilé dans les rues de Latina dans un climat de grande dignité. Nous voulons que des morts atroces comme celle de Satnam Singh ne se reproduisent plus jamais, a déclaré le président de la communauté indienne du Latium, Gurmuk Singh. De leur côté, des représentants syndicaux du secteur agricole ont demandé à l'unisson davantage de contrôle et une intervention plus rapide de la justice, tandis que la sénatrice du Parti démocrate, Anna Maria Furlan, a exhorté le gouvernement Meloni à prendre des mesures pour augmenter le nombre d'inspecteurs du travail et assurer un contrat légal à tous les ouvriers agricoles. Selon les dernières statistiques, en Italie, 450 000 femmes et hommes, dont 70% proviennent de pays tiers, travaillent dans des conditions inhumaines et pour moins de 5 euros de l'heure. Un phénomène étroitement lié à la criminalité organisée, surtout dans les régions du Sud. Anne Lenir, Rome, RFI.
Ainsi s'achève le journal. Très bonne journée pour vous sur RFI. Je vous laisse en compagnie de Caroline Paré pour Priorité Santé. Caroline, bonjour.
Bonjour et merci Gilles Moreau. Toutes ces infos, on les retrouve sur rfi.fr.